podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast à dossier de Frontières des séries. Et si on parlait de polygamie aujourd'hui, au programme Big Love, une série qui nous plonge dans l'église mormone à travers la vie chaotique de Bill Henriksen, de ses trois femmes, Barb, Nikki et Margine, ainsi que de leurs huit enfants. Diffusé entre le 12 mars 2006 et le 20 mars 2011 sur HBO, Big Love n'est sans doute pas le blockbuster de la chaîne, mais la série a fait pas mal de remous lors de sa sortie. Controversée à plusieurs niveaux, elle est cependant une série qui pousse à aller au-delà des apparences et s'attaque de front à une réalité tabouée. C'est Héloïse Rouard qui a regardé Big Love pour nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Et pour nous accompagner, nous avons Sophie Sourdiocourt.
Bonjour.
Alors au premier abord, Héloïse, la première chose qu'on se dit quand on voit le pilote de Big Love, c'est qu'on est loin, très loin des clichés concernant les familles polygames, des camps un peu sales qui refusent toute modernité, puisque Henriksen, il vivent dans une banlieue qui pourrait très bien être sortie de Desperate Housewives, dans une très très grande maison évidemment, mais qui est finalement somme toute très classique.
Oui, la famille Henriksen est un peu une famille, bon, en tout cas singulière, de par la façon de vivre le principe, donc le principe mormon. On a parlé d'église mormonisme, on va voir en fait qu'il y a une nuance à apporter donc, concernant cette religion. Big Love s'en est inspiré fortement, mais ne doit pas en tout cas être véritablement assimilé à cette religion.
D'autant que dès le départ, ils ont eu quelques soucis. J'ai le souvenir qu'ils ont eu un procès avec justement l'église mormone, qui refusait d'apparaître, ou en tout cas d'être cité comme étant l'inspiration. Je crois qu'au départ, ils sont clairement mormons, mais ça s'étiole un peu dans les épisodes suivants. On en parle moins.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a parlé de cette réalité de camp où effectivement Bill et ses femmes ne vivent pas, mais néanmoins, on voit ces camps et on voit aussi toutes les dérives liées à ce mode de vie et le côté négatif, en tout cas le côté sombre des représentations que nous avons de cette religion, c'est-à-dire les mariages forcés, les viols.
Les gamines de 14 ans mariées à des types de 80, enfin
tout à
des trucs un peu trash.
Tout à fait. C'est surtout pour ça que l'église mormone ne voulait pas être assimilée directement à cette série. Qu'est-ce qu'on retrouve ? C'est l'histoire, comme on l'a dit, de Bill Henriksen, qui est en fait un homme d'affaires. Il est responsable d'un magasin de bricolage, Homme Plus, qu'il gère avec son ami Don, associé, lui aussi, mormon. Et il est marié à trois femmes. Il s'est d'abord marié 10 ans auparavant à Barb, qu'il a rencontrée lors de ses études à l'université. Barb, avec laquelle il a eu 3 enfants. Barb est alors touchée d'un cancer et Nikki, qui deviendra par la suite la deuxième femme de Bill, va s'occuper de Barb lors de sa convalescence. Suite à la guérison de Barb, Bill décide en fait de vivre le principe et d'ouvrir son mariage au mariage pluriel et d'intégrer Nikki dans leur vie.
Parce qu'en fait, au départ, il ne vivait pas la polygamie du principe.
Non, en fait, il faut savoir que Bill Henriksen est né dans le camp de Juniper Creek, qui est en fait le camp des mormons qui vivent leur religion de façon très fondamentaliste. Un camp qui est retiré, donc on se situe dans l'état de l'Utah. À l'âge de 12-13 ans, comme la plupart des jeunes hommes de son âge, il a été éjecté du camp, donc c'est-à-dire qu'on l'a abandonné. Il fait partie de ces jeunes gens et donc c'est un phénomène bien réel, hein. À l'âge de 12-13 ans, ces hommes deviennent des concurrents directs pour ces hommes qui ont une vingtaine, une trentaine, voire une cinquantaine de femmes. Et donc, ils décident d'abandonner ces jeunes hommes en pleine rue à Las Vegas ou à Salt Lake City sans aucune ressource. C'est une réalité qui sera abordée dans la saison 4 et 5 de la série de manière plus concrète et plus politique lorsque Bill s'engagera en politique.
Quelle a été la réaction des Américains par rapport au sujet ? Est-ce qu'il y a eu une levée de bouclier des féministes ?
Évidemment, la série a été controversée. On l'a dit tout d'abord par rapport à l'église mormone, mais il y avait aussi un autre sentiment qui était plutôt opposé, c'était que cette série pouvait donner un espèce de côté positif en fait à la polygamie. Et ça aussi, c'était tout aussi dérangeant de voir que malgré tout, Bill et ses trois femmes, en tout cas dans les premiers épisodes, pouvaient vivre, même s'ils étaient cachés et que c'était très difficile à vivre. Bon, à la fois c'est illégal, hein, il faut le rappeler, mais que la société n'est pas prête à accepter ce mode de vie singulier. Malgré tout, on les voyait vivre en communion, tous les trois, au-delà des petits accrochages au quotidien. Donc ça pouvait donner une image positive de la polygamie, alors qu'il s'agit bien d'un acte illégal. Évidemment, sur cette thématique, ça aurait pu être aussi du petit lait pour les féministes, hein, parce que polygamie et tout ce que ça implique, on aurait pu en tout cas a priori se dire, sont des femmes qui ont été forcées, sont des femmes qui subissent l'influence de leur mari. Et on voit en fait que Big Love dépasse ça, parce que c'est une série qui a l'intelligence de montrer une réalité qui est bien plus complexe. Surtout sur des a priori de femmes peut-être objets complètement manipulables et manipulés, dont on profite, et c'est aussi une réalité, hein, on ne la cache pas, mais en ce qui concerne les femmes de Bill, on se rend compte très vite qu'en fait la série tourne autour de ces trois femmes, et met justement ces trois femmes en valeur, parce qu'on les suit donc au départ, comment elles acceptent cette polygamie, alors qu'elles n'y étaient a priori pas préparées. Enfin, je parle pour Barb, qui a vécu quand même dans un mariage, je veux dire, monogame ou traditionnel pendant une dizaine d'années. Nikki, elle, vient du camp et est la fille du prophète. Donc, le principe fait partie de son identité, de son ADN. Donc, en soi, le mariage polygame n'est pas un souci pour elle, même si le fait de partager Bill n'est pas simple, ça c'est clair. Et puis Margine, donc, qui est la troisième femme de Bill, qui travaillait chez Home Plus, qui était très jeune à l'époque, bah elle essaye de trouver un sens à sa vie et par le principe de se créer une famille et de trouver un sens à sa place sur Terre.
Parce qu'au départ, Margine n'est pas du tout une mormone ou ne partage pas le principe de départ. J'ai l'impression qu'elle recherche plus l'image d'un père quelque part.
Oui, très clairement. L'image d'un père, l'image d'une famille unie. C'est un personnage, au départ en tout cas, qui prend les choses avec légèreté, assez naïve aussi, et qui est en recherche d'affection. Et je pense en fait que à travers cette famille et ces deux femmes et ses enfants, elle a trouvé, c'est ça, son réconfort, cette affection qui lui manquait tant dans sa vie.
Pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport au féminisme et au fait que ces femmes ne sont pas contraintes, je me mettrais quand même une petite nuance concernant Nikki, parce que probablement que Nikki, elle, est contrainte à cette vie de par son histoire et par son passé, puisqu'elle vient du camp. Elle est la fille du grand chef du camp, en plus. Elle était destinée à ça, finalement. Je ne suis pas certain que ce soit un choix personnel.
Non, néanmoins, quand je dis que ces trois femmes sont au cœur de la série, et on voit que les choses sont bien plus complexes, effectivement, il y a des contraintes qui sont liées au fait que Bill, en ayant choisi ce mode de vie, l'impose quand même à ces femmes, ça c'est clair. Mais elle décide de le vivre d'une manière différente. Et l'évolution aussi de ces femmes par rapport à la fois à la religion, par rapport aux décisions prises par Bill, par rapport à leur vie de mère, par rapport à leur carrière professionnelle aussi, va faire qu'au fil des saisons, ces femmes vont aussi pouvoir détenir un certain pouvoir et auront la faculté de s'émanciper de cette église, de leur mari, de leur... Voilà.
Et pour finalement, et c'est ça que j'adore dans cette série, qui pour moi est vraiment un petit bijou, pour au final en arriver à l'épisode final, que je ne révélerai pas évidemment, mais tout ce cheminement de ces femmes, on voit à quoi ça en termine dans ce tout dernier épisode, et finalement, c'est juste ça.
Oui, c'est juste ça, et même par rapport à Nikki, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que elle a une éducation assez forte, donc qui l'a vraiment formatée dans cette vie. En tout cas, qui l'a vraiment formatée à être la femme d'un polygame et de ne pas trop réfléchir, de ne pas montrer ses sentiments. Aussi progressivement, elle va tomber amoureuse de Bill. Ça aussi, c'est très curieux. Mais on voit aussi que tout son passé, elle s'en détache et elle arrive à se libérer progressivement. On le voit aussi, ça passe par une attitude vestimentaire parce que les femmes du camp sont très marquées. Donc, c'est-à-dire qu'elles portent des robes longues, des longs cheveux tressés. Et donc, là aussi, on voit qu'il va y avoir un changement aussi physique par rapport à ce style de Nikki qui est très marqué par le saut.
Que les deux autres épouses n'ont pas puisqu'elles ne vivaient pas dans le principe dès le départ.
Nikki, honey. This is Margine.
Hi, I'm so pleased to meet you. This must be Wayne and Raymond.
Raymond and Wayne. Wayne's the bigger one.
Oh, right, I knew that, duh. Your house is so nice.
Thank you. I've made us some lunch. Nothing fancy. But sit down.
Sit right over here.
Bruschetta?
You didn't have to go all out like this, huh?
Oh, it's nothing. So, how long have you worked at Home Plus, Margine?
Just a few months.
You already want to leave so soon?
Retail's not for me.
I'm a people person, but I don't respond well to an office or a store setting. I know that now.
Where were you born?
Colorado.
And are you dating anyone?
Nikki.
No. Bill's helped me recognize I could have a real direction in life. So, 4 days a week?
To start.
You'll be such a help.
So, we have a new babysitter then.
Oh, why don't you go with Wayne upstairs and see the chair he broke? Come on, give Marjamie a minute. Oh, come on, just a sec so we can talk.
So, what will you do with all your afternoons off? What do you like to do?
That's none of your business. What has Bill told you about our family, Margene?
Oh, if you mean, did he tell me about your living arrangement? Yes, he did. And I think whatever people do with their private lives is their business. I've met Barb at the store. She's really nice.
Well, whatever Bill has told you, he is not ready to take on another wife.
Okay.
And even if you fooled Barb into believing you just want to be the babysitter, you're not going to fool me.
Oh, I don't see Bill that way.
You don't see Bill what way? You don't think he's a catch?
No, he's a lot older than me.
When has that ever made a difference in these matters?
Really? I swear I just want to be the babysitter.
Who just wants to be a babysitter?
Me?
Fine. You want to play it that way? Lunch!
Est-ce qu'il y a un jeu de pouvoir entre ces trois co-épouses?
Clairement, il y a un jeu de pouvoir. Il y a d'abord ce jeu de pouvoir qui est simplement de faire quelques petits coups bas entre elles pour pouvoir à la fois profiter davantage de Bill, puisqu'elles doivent se partager Bill durant la semaine. D'ailleurs, c'est des moments assez...
Ils ont un planning, hein, je crois.
Assez étrange, oui, c'est ça.
Ils préparent le planning avec... Bon, moi, je le prends tel soir. Moi, je peux pas parce que c'est pas la bonne semaine. Ou moi, je te le laisse donc ce soir-là. Enfin,
c'est... Oui, c'est très organisé. Ouais. Et c'est Barb, donc, qui reste la première femme de Bill et la femme légitime de Bill, qui organise et coordonne tout ce petit monde, à la fois pour les soirées, à la fois pour les enfants, etc., les cours. Donc c'est elle qui organise tout ça. Donc il y a ces petits coups bas entre femmes pour pouvoir, comme je dis, profiter de Bill. Au départ, ça se concentre plus sur « j'ai envie d'être unique aux yeux de Bill ». Progressivement, ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où une femme semble s'éloigner de la famille ou semble vouloir s'émanciper, là aussi, l'une ou l'autre n'aura pas du tout de remords à monter Bill contre cette femme ou lui dire, bah voilà, tu sais que Barb fait ceci ou que Martine fait ceci. Et donc, pour envenimer les relations ou en tout cas essayer que Bill puisse remettre cette brebis qui risque de s'égarer vers le droit chemin, entre guillemets. Ces rapports de pouvoir peuvent être aussi des femmes qui se liguent en fait contre Bill ensemble pour pouvoir arriver à leur fin, même si au bout du compte c'est Bill qui a le dernier mot, c'est lui le chef de famille, elles sont libres entre guillemets jusqu'à un certain point. On voit quand même que le poids de cet homme est énorme sur cette famille. Même si, comme j'ai dit, progressivement, au fil des saisons, les femmes ont de plus en plus de responsabilités. Elles prennent aussi des décisions. Un nouveau business va s'offrir à Bill. On va voir que Barb va intégrer cette nouvelle affaire et sera responsable notamment d'une partie des employés et devra prendre des décisions qui seront parfois malheureuses, mais elle aura cette part de responsabilité.
Je me souviens d'un épisode où les trois co-épouses justement font la grève du sexe pour faire passer une idée à Bill et que Marjane craque un peu. C'est un peu aussi un moyen de pression pour elle.
Oui, il y a cette grève du sexe des trois femmes. Il y a aussi tout ce qui tourne autour du personnage de Nikki, du fait aussi qu'elle est la fille du prophète du camp, Roman Grant, qui est l'ennemi juré de Bill Henriksen.
Qui est en lui-même un personnage immonde. C'est l'un des personnages les plus détestables de la télévision, j'ai l'impression.
Effectivement, c'est un personnage immonde. Nikki sera toujours écartelée entre son mari et son père. Et là aussi, Roman Grant va pouvoir manipuler pour pouvoir l'utiliser contre Bill, et ça à plusieurs reprises. Là, on va voir par contre un rapport de force assez puissant, voire très dangereux, où on passe carrément la ligne jaune. Donc là aussi, des rapports assez musclés.
Ce prophète est quand même un personnage qui a une multitude de femmes qui sont mariées à lui, qui ont entre 80 et 12 ans d'âge, j'ai l'impression, qui fait des exactions pas possibles. Et il y a aussi le rapport qu'il entretient avec son fils aîné, qui lui aussi est un psychopathe fini. De par sa religion, c'est un gay refoulé qui n'ose pas annoncer ce qu'il est. On a l'impression qu'ils sont tous consanguins, qu'ils ont fait des choses immondes. C'est malsain.
En tout cas, on a l'impression, on peut avoir cette impression, et en même temps, c'est montré aussi dans la série. La question de la consanguinité, c'est une thématique qui va être traitée pendant quelques épisodes sur tout un trafic où l'on met des femmes enceintes, etc. Ça, c'est clairement montré dans la série. La cruauté de ces personnages aussi, il y a des morts, il y a des assassinats, donc...
On a l'impression, en plus, que dans le camp, on est dans un no man's land, que la police a très peu d'entrée là-dedans, que tout est dirigé par ce prophète, par ce Roman Grant, et que il peut y avoir des morts, on s'en fout, parce qu'on va les enterrer dans un coin, et personne n'a va réclamer le corps, rien du tout. Il y a une certaine omerta aussi. Enfin, c'est très malsain, ce qui se passe là-dedans.
Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est que... Là, dans leur camp, on n'a pas vraiment envie de savoir ce qui s'y passe. Ils sont très puissants parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils sont dans pas mal de sociétés aussi, dans l'État. Enfin, de manière directe ou indirecte, ils ont investi dans certaines choses. Donc, ils ont un pouvoir réel. Ils ont sans doute aussi des liens obscurs ou pas avec la politique. Donc, on n'a pas envie vraiment de toucher. On n'a pas vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et on les laisse, entre guillemets, faire leur popote.
Le lien ténu qu'il y a dès le départ entre Roman et Bill, c'est simplement que... Déjà, il est marié avec la fille de Roman, mais surtout, Roman possède une partie des parts de l'entreprise de Bill. Et c'est ça qui crée des soucis dès le départ.
Tout à fait.
Get in. Oh, a new car? Oh, it is so cute! Bill got you a new car?
Actually, I got me a new car, and it's all mine. I can afford the payments out of my allowance. You were right after all, Nikki. I needed a new car. Get in!
Back here. I figured I didn't need the extra space since I'm no longer hauling kids and groceries full time. My responsibilities have changed, as both you and Bill keep reminding me.
Make it go really fast!
Where do you want to go? Downtown?
No, out of town. Past the airport, way, way out.
Can you put the top up, please?
Just relax. Enjoy the ride. The last time we'll all be together for the first time in Honeybee.
You named your impractical little car Honeybee?
Mm-hmm.
I'd think In Your Face would be a better name.
All right, everyone, be quiet. Let's go!
Quelle a été la position de l'église mormone sur la série? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs types d'églises mormones. Est-ce qu'ils ont fait des communiqués officiels?
Il y a effectivement plusieurs façons de vivre sa foi mormone. Il faut savoir en tout cas que l'église mormone a demandé explicitement à HBO... par un communiqué, d'indiquer au début de chaque épisode le fait qu'elle se distancie de la série, notamment sur la question de la polygamie. Parce qu'il y a effectivement plusieurs façons, comme je dis, de vivre sa foi, même si Big Love peut, d'une certaine manière, être considéré comme une série qui a réinterprété l'histoire réelle, mormone dans l'Utah. Parce qu'en 2006, il faut savoir que Warren Jeffs, qui est alors le prophète, le leader fondamentaliste de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a été activement recherché par le FBI. C'était un fugitif. Et si on voit ça à la lumière de la série, on pourrait faire un lien avec Roman Grant, qui dans les saisons 2 et 3 doit faire aussi face à la justice dans un procès. Avec Roman Grant, on parle du mormonisme de façon fondamentalisme, la partie sans doute la plus sombre et la plus obscure de cette religion. On parle de polygamie, on parle de camp, avec une image assez négative, avec ces mariages forcés, avec ces femmes qui sont soumises, qui sont mariées dès leur plus jeune âge, ces questions de viol. C'est vraiment quelque chose d'assez dur, mais c'est une partie, et c'est ce que revendique la série au fil des épisodes et au fil des saisons, une part de réalité concernant cette religion. Donc il y a cette part plutôt, on va dire, archaïque, qui va être attaqué par Bill Henriksen, mais il y a aussi d'autres formes de mormonisme. Il y a ces fondamentalistes, et puis il y a la façon incarnée, on va dire la façon moderne, incarnée par la famille Henriksen, qui est une religion un peu hybride, qui n'est pas fondamentalisme, mais qui intègre dans son principe la polygamie, mais qui ne vit pas non plus dans un camp, qui vit dans un quartier résidentiel.
C'est assez particulier d'ailleurs, parce qu'ils vivent cachés, puisqu'ils sont bien obligés. Si la police apprend que Bill Henriksen est polygame, ils vont venir l'arrêter tout de suite. Et donc il a fait construire une espèce de maison avec des annexes qui peuvent être totalement disjointes de la maison principale. Et quand ils sont entre eux, ben, on enlève les cloisons et tout le monde vit ensemble.
Effectivement, il y a 3 maisons, il y a un jardin commun. Pour pouvoir cacher sa polygamie, c'est comme ça en tout cas qu'il a construit ce système. Ce qui est assez intéressant aussi de voir, c'est que au départ de la série, ces femmes, et, enfin la famille, vit mal le fait de devoir être cachée et voit ça de manière oppressante. Et petit à petit, alors qu'une révélation au grand jour est possible, elles ont de plus en plus peur. Alors qu'au départ, c'est ce qu'elles veulent, c'est pouvoir vivre leur relation polygame, enfin, et pouvoir montrer leur famille au grand jour. Et progressivement, alors que l'annonce va être faite, on les sent beaucoup plus réservées par rapport à ça. Et elles ont peur et elles n'en veulent plus, en fait. Elles trouvent en tout cas que leur situation, même cachée, vaut mieux que cette exposition au grand jour. 3 églises, une 3e aussi, donc ça, attention spoiler, mais une 3e église, en tout cas une forme de nouvelle église va surgir, c'est lorsque cette église mormone créée donc par Bill Henriksen et sa femme vont intégrer la prêtrise des femmes. Donc là aussi, ça c'est une nouvelle forme de pratique en lien avec l'église mormone. Ce qui est compliqué justement par rapport à toutes ces formes, c'est que la famille Henriksen va justement flouter toutes ses frontières en fait. Hein. Elle intègre la polygamie, elle n'est pas fondamentaliste, donc ça c'est très difficile pour le téléspectateur de pouvoir identifier ce qui est moral de l'immoral, ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Et c'est un peu ça qu'on retrouve aussi dans le générique, en tout cas pour le générique des 3 premières saisons, c'est ces femmes qui tournent en fait, hein, cette glace qui se fissure, où est la frontière, que représente chaque femme. Donc c'est ça qui est assez compliqué à comprendre et y intégrer.
La question qu'on peut aussi se poser, c'est, et je crois que c'est une polémique qui a surgi lors de la diffusion de la série sur HBO, au vu de la vie qu'ont la famille Henriksen, qui est quand même à milieu de ce qui se passe dans les camps, est-ce que Big Love ne fait pas justement l'apologie de la polygamie?
Comme je dis, on n'est pas dans affaire à pas faire, morale immorale. On est dans quelque chose de beaucoup plus complexe et je pense que l'intention des créateurs de la série n'était pas de pointer spécifiquement la polygamie, mais plutôt d'avoir un message plus large qui était sur l'acceptation de modes de vie singuliers. Et c'est ça en fait que représente Big Love, parce que c'est peut-être ça aussi, cette volonté de ne pas pouvoir identifier clairement qu'il fasse partie de telle ou telle église. Mmh. Je pense que c'est pas ça l'enjeu, ou de dire c'est bien ou c'est pas bien la polygamie. On voit quand même malgré tout que Bill Henriksen et ses femmes et sa famille vont tomber progressivement, donc il va y avoir une chute véritable. Je pense pas qu'on est là pour faire l'apologie de la polygamie, mais plutôt essayer de comprendre qu'au-delà des apparences et au-delà d'un mode de vie très singulier, il faut un peu creuser et voir ce qui se cache derrière, que avant tout c'est une question d'être humain et qu'il est beaucoup plus facile de poser des étiquettes sur les gens alors que c'est la réalité est beaucoup plus complexe.
Parce qu'au final, quand on y regarde bien, au sein même de la famille Henriksen, il y a aussi des dissensions quant à ce mode de vie, puisque l'une de ses filles est totalement contre, et son fils aîné, par contre, souhaite vivre dans le principe. Donc il y a aussi ces différentes optiques qui sont présentes au sein même de la série.
Et c'est ça, vraiment, qui permet aussi d'avoir un positionnement qui est plus nuancé, plus partagé, c'est effectivement ses seconds rôles. Sarah décide de s'éloigner un moment, donc la fille de Bill qu'il a eue avec Barb.
Interprétée par l'excellente Amanda Seyfried.
Oui, et qui a donc décidé de s'éloigner de sa famille parce qu'elle a décidé de vivre de manière monogame. Ça, c'est un avis et elle représente à elle seule une part de cette Amérique traditionnelle, je veux dire, cette Amérique traditionnelle qui décide de se détacher de ce type de religion. Le fils, effectivement, aurait plutôt tendance à vouloir vivre le principe, même si, à la fin de la série, il se cherche encore.
On en parlait justement, les second rôles sont tous, ou en tout cas la plupart, excellents. Harry Dean Stanton dans le rôle du prophète, Grace Zabriskie qui joue la mère de Bill. Grace Zabriskie, je vous rappelle, c'est la maman de Laura Palmer dans Twin Peaks. Enfin bon, c'est un casting extraordinaire. Les rôles principaux, pareil.
Les rôles principaux sont extraordinaires. Bill Henriksen est joué par Bill Paxton. Barb, la première femme de Bill, est jouée par Jane Triplehorn.
Qu'on retrouve actuellement dans les dernières saisons de criminelle.
Nikki, Chloé Sevigny, très...
On ne présente plus.
Et qui l'incarne de manière assez spectaculaire. Margin, interprétée par Jennifer Goodwin.
Qui est maintenant dans Once Upon a Time.
Qui joue le rôle de Blanche-Neige.
Oui, c'est un peu le grand écart, là.
C'est un peu le grand écart, avec son teint d'Ifan et ses cheveux noirs charbon. C'est vraiment un casting de choix, avec des second rôles qui sont tout aussi bons. Qu'est-ce que je pense de la série ? Ben simplement, c'est une très très bonne série. Comme on l'a dit, c'est pas un blockbuster d'HBO, c'est sans doute pas la série la plus popularisée de ce côté de l'Atlantique. Mais néanmoins, c'est une série que j'invite vraiment à regarder parce que c'est une série intelligente, des dialogues incisifs. Donc on l'a dit, un casting de haut vol avec des seconds rôles très puissants, une évolution et une recherche dans les personnages qui nous permet vraiment une forme de réflexion tout au long des différentes saisons, qui permet d'aller au-delà des apparences. Et malgré peut-être un petit manque de rythme ou peut-être une descente entre la fin de la saison 3 et la saison 4, ça reste intense. La première saison en elle-même est intense et puis progressivement, on se rend compte que chaque épisode est très intense. Et d'ailleurs, parfois, je vous inviterai peut-être aussi à ne pas regarder l'ensemble des épisodes les uns à la suite des autres parce qu'il y a un sentiment un peu d'étouffement, en fait. Il y a pas mal de rebondissements. C'est pas non plus des rebondissements énormes et complètement dingues. On y croit quand même toujours, mais simplement il y a un sentiment un peu d'oppression qui ferait peut-être que vous vous détacheriez de la série alors que franchement il y a vraiment intérêt à regarder la série.
Et puis tout comme dans Six Feet Under et contrairement à ce qu'on a pu voir dans le désastreux dernier épisode de Desperate Housewives, il y a une vraie fin.
Et effectivement, il y a une vraie fin qui se construit.
Oui, c'est pas quelque chose qui a été pondu pour faire le dernier épisode.
Voilà,
ça fait deux saisons qu'on tendait à ça. De toute façon, ça ne pouvait finir que comme ça.
On reste surpris, mais néanmoins, les choses se sont construites progressivement. Et en ça, je trouve que c'est...
C'est vraiment un travail d'orfèvre.
C'est un travail d'orfèvre. Il y a des épisodes aussi particuliers qui sont vraiment à couper le souffle. Je pense notamment à un épisode dans la saison 3 où ils partent en vacances. Enfin, c'est une espèce de pèlerinage. Et cet épisode, c'est juste un bijou. Sarah fera une annonce lors de cet épisode. Enfin, et cette annonce sera la fin de cet épisode. Il y a à la fois ce secret qu'elle garde pendant, enfin, déjà depuis quelques épisodes, mais qui va vraiment exploser lors de cet épisode. Et je trouve que c'est vraiment remarquable. Juste aussi, je pense à un moment où Bill veut prendre sa famille en photo. Ils ont tous l'air tristes, en fait. Parce que, voilà, on est à un moment de la série où ils sont tous traversés par des difficultés. Et lui est là et il veut vraiment y croire malgré tout. On est parti en voyage familial pour resserrer les liens et tout. Et on est face à lui et à son désarroi, donc c'est très touchant. C'est un épisode très touchant. Vraiment des épisodes à couper le souffle. Petit bémol, comme je dis, peut-être une petite chute d'intensité entre la fin de la saison 3 et de la saison 4, et aussi pour le générique. Parce que durant les trois premières saisons, on a un générique assez bien fichu, avec une bande originale des Beach Boys, qui nous met dans un univers assez particulier. Et puis alors...
Chanson réinterprétée qui refermera d'ailleurs l'épisode final. Ouais, une très jolie façon.
Qui est de pouvoir fermer la boucle. Et puis alors, les saisons 4 et 5, on est dans tout autre univers, beaucoup plus sobre, où on voit justement ces trois femmes tomber du ciel.
Je crois que ça participe aussi d'une évolution de la série, qui a un tournant à la fin de la saison 3, et que ce nouveau générique annonce justement cette chute.
Alors c'est vrai qu'en tout cas, en termes de représentation et d'image, ça se tient. Néanmoins... Moi, j'aimais bien la musique.
Quel plaisir de la retrouver dans l'épisode final.
Voilà, ça c'était mon petit bémol, mais c'est vraiment un tout petit bémol à côté de la grande qualité de la série.
On l'aura compris, je crois qu'autour de la table, tout le monde est très 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 enthousiaste. À propos de Big Love, on va conclure là-dessus. On vous invite, si c'est possible pour vous, à la découvrir, puisque je pense que jusqu'à présent, seules les deux premières saisons ont été éditées en France en DVD. Donc, si vous avez l'occasion de la voir, franchement, foncez-y. C'est une série, un petit bijou à découvrir. Merci Héloïse, merci Sophie. À la prochaine.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.